Il y a une question devant, j'ai vu.
Tout d'abord, félicitations pour vos actions. Je souhaiterais féliciter Madame Favreau pour ses actions à destination des publics sourds et malentendants. Ce que je peux remarquer, moi, dans ma posture de formateur, lorsque je reçois ces publics sourds, ils sont dans une situation très difficile par rapport au Pôle emploi. De communication, difficulté d'accès par rapport au Pôle emploi. Effectivement, il y a le site internet, ça se traite directement par internet. C'est difficile pour nous, en tant que formateurs, de relayer les demandes des personnes sourdes en formation, parce qu'il faut passer des coups de fil. Tout à l'heure, vous disiez d'avoir un rendez-vous, prévoir la présence de l'interprète par rapport à une offre d'emploi qui nécessite une réponse urgente. Je pense que ça, c'est un constat qu'on peut faire au niveau national. Il y a aussi des différences au sein des différents camps emploi au niveau national, avec des structures qui ont une sensibilisation au handicap, d'autres non. L'idée, ça serait peut-être d'embaucher un interprète, un intermédiateur, et cela ferait sens au niveau de l'accompagnement des personnes sourdes. Il me semble que c'est important de comprendre ce que veut la personne sourde. Ça doit partir de elle. Ensuite, l'accompagnement pourra se faire de manière beaucoup plus efficace. Vous parliez, par exemple, Tadeo, Monsieur Allard, de l'idée de la promotion des personnes sourdes, et je vous en félicite. Les personnes sourdes ont besoin également, lorsqu'elles sont embauchées, d'avoir de la promotion au niveau professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas inscrit, mais même au niveau légal. Il y a toujours des situations où des personnes sourdes se retrouvent en difficulté. Comme Madame disait, il faut travailler ensemble et je suis complètement d'accord avec cette philosophie. Si on scinde la GFIP, le FIP, Cap Emploi, je demande très simplement des moyens pour les sourds et toujours on me parle effectivement de l'impossibilité de faire ensemble, de l'impossibilité d'avoir des formations, des financements, et l'accompagnement est possible à condition que l'on travaille ensemble. Et il y a toujours cette réponse du financement. Et au final, qui sont les victimes? Ce sont les personnes sourdes. Et ce chômage est très prenant au sein de la communauté sourde. Vous parliez tout à l'heure de compétences. Mais il y a des personnes handicapées qui sont compétentes et qui ont droit à l'insertion professionnelle. Voilà. Alors qu'on est plutôt dans une embauche des personnes dites valides. Et ça, c'est un constat que je fais au quotidien avec une discrimination qui augmente de manière très prenante dans notre société. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos échanges.
Il y a une question là-bas.
Bonjour, Denis Laurent, directeur de l'Institut régional des sourds de Provence. Je pense que l'intervention de la personne formateur, personne sourde, en fait, nous explique bien que on a encore à œuvrer pour l'accessibilité. Je crois que c'est important peut-être de rappeler que la situation du handicap, c'est pas le simple fait de la déficience ou de l'incapacité de la personne. C'est aussi l'inadaptation de l'environnement. Et on parle trop souvent encore d'handicapés, de personnes handicapées. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on pense la personne en situation de handicap aussi par rapport à cet environnement qui n'est pas suffisamment, à mon sens, accessible. Monsieur De Caffarelli, vous avez évoqué tout à l'heure deux axes principaux du FIP-HFP. Un concernant donc l'apprentissage, qui de fait favorise l'accessibilité, et le deuxième sur les moyens que vous souhaitiez mettre en œuvre au titre du FIP-HFP, justement sur l'accessibilité de l'environnement professionnel. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? Comment est-ce qu'on pourrait envisager ne serait-ce que parce qu'il y a un écart entre la collecte à 188 millions sur 2010 et est-ce que vous avez en 2010 donc déployé, est-ce qu'il y a des axes forts justement pour essayer de favoriser l'accessibilité de l'environnement?
Oui, alors très très clairement, puisque nous avons décidé de mettre en œuvre sur 3 ans 150 millions d'euros sur l'accessibilité. Alors, dans 3 domaines, l'accessibilité de l'environnement professionnel des employeurs publics, quel qu'il soit. Deuxième créneau, l'accessibilité des écoles professionnelles et des centres de formation de la fonction publique. Alors, je m'entends, hein, il s'agit bien de la formation des fonctionnaires, enfin, formation initiale ou permanente des fonctionnaires et des agents de la fonction publique en général. Donc, ces aides peuvent couvrir à la fois les écoles d'application, les centres de formation permanente, etc. Donc, et une troisième rubrique qui concerne l'accessibilité numérique. Alors, les deux premières sont déjà en place, donc, puisqu'il s'agit en fait du prolongement de choses que nous avions déjà commencé, hein. Donc, les employeurs publics, ils ont déjà commencé à le faire, peuvent nous saisir. Vous avez toutes les explications sur le site internet du fonds. Donc, pour nous proposer le financement d'aménagement. Alors, il s'agit bien d'une accessibilité ex ante, en fait. Hein. Le but, c'est bien entendu que si demain matin, une personne en situation de handicap est embauchée par l'employeur, on ne commence pas par se faire des nœuds au cerveau pour savoir comment elle va pouvoir entrer dans le bâtiment et comment elle pourra suivre les conversations des uns et des autres. Donc l'idée est bien de mettre en place, sur la base d'un diagnostic des bâtiments en question, etc., les moyens d'accessibilité pour ces locaux. Pour les écoles de formation et les centres de formation des trois fonctions publiques, le raisonnement est le même. On nous a raconté 25 000 fois l'exemple du stagiaire en situation de handicap dont on se découvre le vendredi soir qu'on ne saura pas l'accueillir le lundi matin suivant parce qu'on n'a pas prévu tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse suivre sa formation. Donc le but de ces actions, de ces financements et de ce qu'on veut financer avec ça, c'est de faire en sorte que ce genre de situation ne se produise plus et que tout stagiaire, quelle que soit sa situation, puisse participer et suivre la formation sans que ça pose problème. Alors, certaines écoles du service public l'ont déjà fait de façon très concrète. Je pense par exemple à l'école des impôts, l'école du trésor public, etc., où ils ont fait des aménagements très intéressants, y compris d'ailleurs pour les personnes malvoyantes, personnes malentendantes, etc. Donc, j'allais dire, les solutions techniques, des solutions existent. Et donc, voilà, donc nous apportons le financement. Là aussi, cette aide existe. Donc, les conditions d'attribution ont été définies. Et donc, les structures en question peuvent d'ores et déjà nous solliciter pour la mise en place de ces aménagements. Alors, le dernier point concerne l'accessibilité numérique. Et ça, je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. L'idée est bien qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, mais c'est vrai aussi sans doute dans le privé, enfin en tout cas nous, on s'occupe de la fonction publique, que, j'allais dire, dans nos métiers de la fonction publique, on utilise tous des applicatifs qui sont des logiciels ou des progiciels informatiques, etc., dont un certain nombre d'entre eux n'ont pas été conçus pour prévoir l'accessibilité. Et donc, je pense notamment à un des membres du comité national du FIPHFP qui rappelle que de facto, un certain nombre de personnes malvoyantes, par exemple, qui avaient des fonctions tout à fait bien définies au sein de certaines structures publiques, ont presque de facto perdu leur métier parce qu'on a mis en place un beau matin un logiciel qui sert à faire ce qu'ils faisaient avant par d'autres moyens et que comme ce logiciel n'est pas accessible, du coup, il ne peut plus rien faire. Bon, je caricature un petit peu, mais pas tellement. Hein. Voilà, donc nous avons... alors là, les conditions de cette aide ne sont pas encore définies parce que c'est un peu plus compliqué. Ça passera vraisemblablement par la définition de cahier des charges à la fois pour rendre accessibles les logiciels existants et surtout pour prévoir ex ante la mise en accessibilité des logiciels futurs qui seront mis en place de façon à ce que on recommence pas le travail 3 fois. Et donc nous mettrons également en place l'année prochaine des aides par exemple pour rendre accessibles les les intranets ou les extranets des structures publiques, etc. Alors encore une fois, ces aides ne sont pas encore définies parce que, bon, j'allais dire, c'est un domaine dans lequel, si on ne fait pas attention, on peut dépenser beaucoup d'argent, donner du travail à beaucoup de gens, mais au bout du compte avoir un résultat médiocre. Donc nous réfléchissons bien sur la façon de mettre ça en place. Alors je rappelle également que nous avons cofinancé avec l'État, la GFIP également d'ailleurs, sur la question des centres d'appel, une étude qui avait été faite avec l'ARCEP sur la création de systèmes de centrales d'appel pour les personnes sourdes, notamment pour leur permettre de téléphoner. Alors cette étude a été faite. Nous avons prévu, en tout cas en ce qui concerne le FIPHFP, puisque c'est un projet qui est à l'initiative de l'État, si le projet devait se mettre en place, de contribuer effectivement pour notre part à la mise en place et au financement d'une telle structure si elle devait voir le jour. Voilà ce que je pouvais dire sur l'accessibilité. Je pourrais compléter s'il y a d'autres questions.
Une dernière question, monsieur, et on s'arrêtera là parce que...
Oui, bonjour. Arnaud Grégoire, CRDV de Clermont-Ferrand. Sur un service comme celui de Clermont, on intervient pour beaucoup d'opérateurs, beaucoup de prescripteurs, Cap Emploi, etc. Puis donc maintenant, le nouveau venu, le FIPHFP. Moi, je me pose une question comme ça, très prospective. On a mis presque 20 ans à créer le FIPHFP après la GFIP. En combien d'années faudra-t-il les faire fusionner, selon vous? S'il doit y avoir une fusion, peut-être un jour. Voilà, c'est une question peut-être un peu provocatrice, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui justifie la création du FIPHFP alors que d'autres dispositifs existaient déjà?
Alors, ce qui a justifié la création du FIPHFP, c'est qu'auparavant, il n'y avait pas de système de contribution pour les employeurs publics. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place un système spécifique? Parce que, la réponse ne vaut pas forcément pour l'éternité, si je puis dire. Si un jour on doit fusionner le FIP et la GFIP, ça ne me pose pas de problème particulier. Il y a simplement deux ou trois points qu'il faut avoir en tête. C'est que la GFIP et le FIP couvrent des domaines qui sont quand même assez différents dans leur mode de fonctionnement. Lorsque vous prélevez des contributions sur l'État et sur les collectivités territoriales et sur les hôpitaux publics, vous êtes dans un univers de finances publiques, d'argent public, etc., avec des règles spécifiques en termes d'utilisation, etc. Par exemple, et ça s'applique même à l'intérieur du FIPHFP, la loi a prévu que nous devons surveiller en permanence que l'argent collecté, par exemple, sur les employeurs collectivités territoriales retourne bien dans la durée aux collectivités territoriales. On ne peut pas faire de transfert de l'un à l'autre. Bon, ça suppose des règles particulières. Ça, c'est un premier point. Bon, à la GFIP, je pense que les employeurs privés ont tendance à considérer que les contributions qu'ils payent, c'est en quelque sorte l'argent des entreprises, alors certes qui est mis dans une enveloppe particulière, mais voilà, donc sur lequel elles souhaitent avoir un regard, etc. Par ailleurs, les partenaires sociaux qui participent au conseil d'administration dans un cas et dans l'autre sont pas forcément les mêmes. Les syndicats de la fonction publique sont pas les mêmes que les syndicats du secteur privé, etc. Donc tout ça crée quand même des contraintes, juridico-politiques. Dont on peut dire que il suffit de mettre un grand coup de pied à la fourmilière et qu'on peut dépasser tout ça. Après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur les raisons qui ont fait qu'il y a eu deux fonds à l'origine, je pense qu'elles tiennent largement autour de ces éléments-là. Alors, il y a des réflexions permanentes sur le sujet, notamment l'IGAS a fait plusieurs rapports sur le sujet et a travaillé sur la question. On peut imaginer toutes les solutions techniques qui soient. La seule question sera de savoir si effectivement ça simplifiera vraiment les choses et si ça permettra de gagner en efficacité. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème, il faut le faire. Si c'est pas le cas, on peut se dire que le système actuel, en tout cas dans l'état actuel des choses, ne pose pas de problème majeur, sachant que de toute façon, sur un certain nombre de sujets, et notamment dans la collaboration avec les Cap Emploi, avec Pôle Emploi, etc., en réalité, donc nous travaillons ensemble, nous participons même comité de pilotage, etc., et nos financements sont coordonnés. Donc c'est pas deux univers qui s'ignorent et qui travaillent de façon contradictoire.
Je voudrais juste revenir parce que je trouve que c'est intéressant ce propos et je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Pour moi, mon propos d'ailleurs n'est pas du tout de fusionner ETH, GFIP, FIPH. Et je pense qu'une en analyste cynique, je dirais qu'à limite, il vaut mieux une bonne et franche concurrence quelque part. Qu'il y ait des convergences effectivement sur les actions, mais une bonne et franche concurrence justement sur les résultats obtenus permettra effectivement, je pense, des mobilisations certainement différentes. Donc quelque part, il faudra peut-être mieux qu'effectivement les uns restent effectivement privés, les autres publics et troisième médico-sociaux, mais par contre qu'ils partagent des moyens, ou au moins qu'ils aient une politique de mise en œuvre de moyens équitable dans le traitement du handicap. Ça me paraît une réalité. On voit que la GFI, par exemple, parlait du téléphone tout à l'heure. La GFI a pris une position en disant que l'accessibilité au téléphone était pour les personnes sourdes, était de la responsabilité des opérateurs de téléphonie. C'est se débarrasser d'un problème et non pas le traiter. Et ça, je trouve que c'est pas du tout normal, par exemple.
Merci, on va clôturer cette table ronde. Merci à l'ensemble des participants.
Bien, juste quelques informations. D'une part, on a trouvé un étui de stylo Mont Blanc. Donc la personne qui l'aurait perdu, il n'y a pas de stylo dedans. Voilà. Et priez de venir le chercher auprès de moi. Deuxième information, on garde la pause. On va garder la pause puisque vous en avez besoin. Je pense, mais je vous demanderai tout simplement dans les ateliers de tenir par contre les horaires afin qu'on puisse sortir pour le déjeuner à 13h. Je vous rappelle qu'il y a la signature des œuvres de Madame Grenier à l'espace presse, donc si vous avez envie de vous faire dédicacer quelques ouvrages, vous pouvez y aller, et à 13h30, celle de Monsieur Gardou. Bonne pause et soyez ponctuels pour les ateliers. Merci, à tout à l'heure.